Moi, je suis André du Bouchmail au Café Oriental. J'ai réussi totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de vous combattre au Café Oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'avis et président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci et bienvenue dans Parole aux auditeurs. La nouvelle réglementation fiscale de la RDC compte près de 50 000 taxes, droits et redevances. La majorité de ces impositions reste inconnue des contribuables ainsi que des agents de l'administration fiscale sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs observateurs estiment que cette ignorance occasionne l'évasion fiscale et favorise le coulage des recettes et entraîne ainsi la baisse du budget de l'État. Quel serait, selon vous, le préalable pour amener la population à maîtriser cette réglementation fiscale? Réveillez-nous au 081-890-75 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également rejoindre la communauté des internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Luc Mokondo est à la mise en œuvre de ce programme réalisé coordonné par Pierre Ndiengo. Julie Sabongonda, Eco Standard et Piro et la Maison vous représentent sous la supervision de Martin Télizango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
L'auteur Marcel Yabili, qui a écrit les livres sur la nouvelle fiscalité réglementaire de la RDC, avec 50 000 taxes, redevances et droits, 30 ministères, 26 provinces, 1435 entités territoriales décentralisées. Il fait ici un condensé de plusieurs impositions, 364 arrêtés ministériels, 213 espèces d'impositions provinciales, 53 impositions urbaines, 46 impositions communales, 13 des secteurs, 13 des préfets qui vont se déployer à travers le pays. Cette nouvelle réglementation doit en principe être maîtrisée par l'ensemble des contribuables, mais aussi de l'administration fiscale. Et plusieurs personnes estiment que la réglementation fiscale telle qu'elle est, souvent elle est ignorée, que ce soit par les contribuables, comme je venais de le dire, que ce soit par l'administration fiscale, ce qui occasionne l'évasion, le coulage des recettes, et tout cela a pour conséquence la diminution, la baisse de la contribution pour le budget de l'État. Alors, quels seraient, selon vous, les préalables pour amener la population à maîtriser cette nouvelle réglementation fiscale? C'est la question au centre de notre échange. Vous êtes nombreux à commenter ce sujet sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais aussi en direct dans ce magazine, comme Timothée qui est à Kananga, dans la province du Kasaï central, et professeur Ignace qui est à Kolwezi. Timothée, on commence avec vous. Merci d'être avec nous, Timothée. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Pierrot, bienvenue à tous les radio-cateurs.
On vous écoute, Timothée.
Et merci bien. Il y a un adage qui a dit que trop d'impôts tuent l'impôt. Moi, je crois que 50 000 impôts pour une nation, en tout cas, c'est tellement difficile pour que notre population parvienne à maîtriser les différents impôts et taxes pour qu'il fait l'activité économique. En tout cas, ça serait très difficile et ça favorise d'abord la méfiance. La part se conserve parce que vous vous rendrez compte qu'un seul contribuable à une seule activité économique se voit soumis à plusieurs taxes et impôts en même temps, dont il n'est même pas en mesure de payer tous ses impôts et taxes. Pour moi, je crois que la multiplication des impôts ne servirait à rien. Ça ne pourrait même pas maximiser les recettes dont sommes en train de viser, mais plutôt on devrait sélectionner ces impôts et taxes par rapport à la priorité et à l'importance de chaque impôt et taxe. À partir de là, si nous avons par exemple des impôts qui donnent plus de recettes au gouvernement et au pouvoir fiscal, en tout cas, ce sont des impôts qu'on peut encourager pour que notre population se retrouve. Parce que quand nous avons plusieurs impôts en même temps, ça favorise aussi ce que nous avons surappelé les paradis fiscaux. Parce que la population doit se méfier du fait que cet impôt-là n'arrive toujours pas les comptes du trésor public, quand les agents préfectuels arrivent pour percevoir ces impôts, c'est d'abord leurs poches qui sont servies et après, les comptes du trésor public sont toujours oubliés. En même temps, quand nous avons plusieurs impôts, ça favorise aussi les tracasseries fiscales de la part de l'administration fiscale. Et toute personne qui est soumise à cet impôt-là être cassé, voire même ses activités bloquées parce qu'il n'a pas payé tous ces impôts-là. Moi, j'ai préféré que l'administration fiscale puisse aussi supprimer d'autres impôts qui ne sont même pas importants. Là, favoriserait aussi l'épanouissement de notre économie. Parce que si on maintient toujours ces genres d'impôts, plusieurs impôts, 40 000, c'est tellement difficile que notre population est d'abord analphabète, qui ne parvient même pas à accéder à ces codes qui créent ces impôts-là. Nous n'avons même pas le temps de lire tous ces codes qui ont prévu ces impôts-là. Ça pose plusieurs problèmes pour que ces impôts-là soient vraiment connus de la part de la population. Il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation et surtout prioriser les impôts. Il y a d'autres impôts qui sont inutiles dans notre pays. Nous payons, mais nous ne voyons même pas les retombées de ces impôts-là dans notre vie quotidienne. Ce qui ne favorise pas en tout cas à la population de s'acquitter de ses obligations fiscales.
Merci. Merci Timothy. Vous avez raison, celui qui a fait le préface de ces livres, c'est M. Jean Bamanissa, l'ancien gouverneur de la province orientale, alors qu'il y a dans le préface, bien sûr, il a beaucoup insisté sur le fait qu'aujourd'hui, avec les ordonnances là, du 23 février 2013 qui ont recadré les nomenclatures au niveau central, provincial et local, et on a un problème de terrain d'entente entre le pouvoir central et le pouvoir provincial autour de certaines taxes d'autres redevances qui doivent soit revenir à la province, soit au gouvernement central. Et vous aussi, c'est là où vous mettez en difficulté parce que les contribuables se retrouvent plusieurs fois avec autant de délégués de l'administration fiscale. Et vous vous rendez compte qu'on devrait faire une étude, réorganiser l'administration fiscale pour qu'on ait des impositions qui doivent être très très prioritaires, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. On peut voir combien de taxes une personne peut payer sur une activité, et tout ça, ça crée la méfiance. Et dans cette configuration où beaucoup de gens n'ont pas eu accès à l'information, il l'a dit même dans ses livres, ça serait difficile aujourd'hui que les gens comprennent l'importance d'une imposition et qu'ils puissent s'acquitter plus facilement. Merci beaucoup, Timothy, de nous avoir appelé de Kananga. Professeur Ignace, vous êtes à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je crois que, je l'ai dit, le problème de fiscalité ici par rapport à la thématique pose la problématique du management communicationnel. C'est qu'il y a un grand problème. On peut aujourd'hui créer une taxe, mais est-ce que les redevables sont informés? Moi, j'estime que lorsque les redevables, d'ailleurs j'ai insisté sur cela, quand on dit redevable, le terme est clair. C'est qu'on devait d'abord informer ces gens-là sur les différentes taxes qu'ils doivent payer. C'est juste qu'on se contente de dire qu'on doit se référer au journal officiel. Mais est-ce que tout le monde a accès au journal officiel pour connaître la quintessence des différentes taxes lorsqu'elles sont créées ou celles qui existent? On voit seulement les percepteurs qui viennent, qui passent des communiqués sur des chaînes pour demander qu'à telle date, on va commencer à payer telle ou telle autre taxe ou quelque chose dans ce sens. Donc, il y a le premier problème, c'est l'information. On doit au préalable informer la population, le redevable, pour que ces gens ne se fassent pas comme emprisonnés pour payer ces taxes. Mais ils doivent, lorsqu'ils sont informés, sentir que c'est un devoir. C'est un apport, comme on le dit, ils sont contribuables, ils contribuent, ils participent à l'effort de développement et ils donnent à l'État les moyens pour résoudre leurs problèmes. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la redevabilité. Lorsque la population, les contribuables, ne voient pas réellement à quoi sert l'argent qu'ils payent comme impôt ou taxe, cela pose un problème. Il y a une certaine méfiance. À ce moment-là, on ne sait pas pourquoi on doit payer tout, on cherche à négocier parce que on a l'impression que ce sont ceux-là qui viennent, qui prennent cet argent-là, qui mettent dans leur poche. Ou ceux-là, quand ils viennent, lorsque le redevable n'est pas prêt, on lui dit, bon, tu peux donner quelque chose comme ça, moi je vais te couper. Alors on ne sait pas si une certaine manigance. Donc vous comprendrez que ces deux aspects posent un très très sérieux problème, l'information et la redevabilité. C'est une très très grande nécessité pour qu'on arrive. Mais je vais terminer en disant aussi que, allô?
Oui, allez-y, professeur.
Dans notre pays, il y a aussi, quand je parle de la communication, on va éduquer la masse comment? Dans nos écoles. Ceux-là qui étudient beaucoup plus que les notions de fiscalité, ce sont ceux-là qui font des études commerciales. Mais moi, j'aurais aimé que partout, déjà à la base, les enfants s'imprègnent de cette culture, qu'ils apprennent que quand on est au pays, il y a des impôts et des taxes qu'on doit payer. Alors, petit à petit, ils sont informés et une fois adultes, ils seront déjà en vie, il n'y aura pas de souci, ils peuvent se mettre sur la ligne de paiement de différents taxes impôts. Voilà à peu près comment je vois les choses.
Merci, professeur. Vous avez rejoint M. Jean Bamanissa qui, dans le texte de ses livres, est revenu là-dessus, les déficits et l'asymétrie de l'information. On finit par accentuer la méfiance, vous avez raison. Mais il y a aussi le problème de l'affectation des ressources. Hein. Comme lui, il les dénonce que plusieurs fois, il y a de rélevance et qui, le pourcentage élevé, retourne dans le fonctionnement de l'administration. Et là, ça pose un véritable problème. Si on pouvait aujourd'hui avoir, dans la question des redevabilités, mais aussi des traçabilités, rendre compte à chaque fois et que la population se rende compte, par exemple, que si nous payons l'impôt foncier, voilà ce que l'État nous a dit, voilà si nous payons la taxe sur l'embarquement, par exemple, voilà les résultats de cette taxe, parce que là, il y a de résultats et des actions directes quand il s'agit de ces taxes. Et alors, ça va faire assez qu'il n'y ait pas de méfiance. Mais la question de la traçabilité, c'est une question qui se pose plusieurs fois dans notre système. On a vu chaque fois que des ministres, soit les ministres de Finances, ou soit les débats autour, par exemple, des impôts au niveau de l'Assemblée nationale, les assistants chaque fois dans des commissions, et il y a eu cette cassure communicationnelle entre les contribuables et les redevables, ainsi que l'État. Plusieurs fois, les gens ne sont pas assez informés de ce qui se passe, et aussi le déficit quand il s'agit d'expliquer à la population une nouvelle taxe qui a été mise en place. Merci beaucoup, professeur. Il y a son retour ici à Kinshasa. Maître Trésor, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et quand on regarde ces livres, parce que peut-être que beaucoup de gens ne l'ont pas encore lu, tel que nous l'avons ici, alors, l'auteur Marcel Yabili, il pose un problème sérieux du rôle des juristes, n'est-ce pas, dans la vulgarisation, ou même dans l'explication de ces différents textes qui installent, qui mettent en place des impositions, parce qu'on estime que c'est une question d'abord des droits, parce qu'il y a un arrêté ministériel, que ce soit un décret, que ce soit une décision du gouvernement installant, au gouvernement provincial installant une redevance, c'est une question d'abord de droits. Alors lui, il estime qu'à ce moment-là, il fallait que le travail sur le plan juridique soit aussi assez costaud pour que la population comprenne pourquoi ça a été installé et juridiquement quelle est l'importance de cette redevance, et comme ça les gens peuvent s'acquitter plus facilement vu la complexité aujourd'hui de notre découpage territorial, le maître Trésor.
Bien, merci. En tout cas, je félicite l'auteur du livre parce qu'il a osé parler des choses parfois complexes. Je voudrais dire que la Constitution a consacré un principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Mais ce principe est astreint à un problème de vulgarisation des lois. Et la vulgarisation des textes, comme vous dites là, nécessite des moyens colossaux parfois, vu aussi l'immensité du pays. Mais ici, j'aimerais beaucoup plus profiter pour essayer de clarifier certains concepts. On parle des contribuables, on parle des redevables. Ici, il faudrait retenir que le contribuable, c'est la personne assujettie directement à un impôt, une taxe, une redevance. Tandis que le redevable, c'est la personne qui doit retenir un montant sur ce qu'elle doit à son créancier au nom et pour le compte de l'État ou du Trésor. Donc, il doit les reverser par la suite. Mais lui n'est pas concerné par l'impôt en question. L'État l'utilise simplement pour qu'il puisse collecter à aller et au nom du Trésor. Alors, par rapport à la question fondamentale, ici, il y a deux niveaux de problèmes, le niveau central et le niveau provincial. Au niveau provincial, il y a également le niveau des entités territoriales décentralisées. Vous avez parlé des juristes. Dans notre pays, il y a également un problème de manque de confiance. Quand on se met autour d'une table pour réfléchir sur les taxes et les redevances, on n'associe pas beaucoup les juristes. On ne fait pas appel à des spécialistes, à ceux qui maîtrisent la matière. les politiques se mettent autour d'une table et ils parlent, ils voient leurs intérêts et ils créent des taxes, ils créent des impôts, des redevances. Mais...
Allô, maître Trésor ?
Oui ?
Oui, allez-y, vous êtes en ligne.
Ah. Ouais, l'impôt, quand on le paye, quand on paye l'impôt, on oublie tout. On ne demande rien à l'État, hein, en contrepartie. Mais quand on crée une taxe, une redevance, il y a la taxe fiscale et il y a la taxe parafiscale. Il y a la redevance. Les deux, et la taxe et la redevance, nécessitent l'existence d'un service. D'un service. On ne peut pas créer une taxe sans mettre à la disposition de ceux qui doivent acquitter cette taxe-là un service. On doit au préalable mettre en place un service. C'est là qu'il n'y aura pas un problème de suspicion ou de rélevabilité. Nous payons des taxes, mais on ne voit rien. Non, on ne peut pas payer une taxe sans qu'il y ait un service. Ça, c'est le principe et la règle même, les fondamentaux, avant de créer une taxe ou une rélevance. Et la taxe est payée même si on n'a pas utilisé les services. Ça, les gens doivent comprendre. Dès lors qu'on a déjà mis un service à la disposition de la population, même si on ne l'utilise pas, on doit payer la taxe. Tandis que pour la redevance, si on met un service à la disposition de la population, avant de demander à cette population d'acquitter la redevance, on doit s'assurer que la population a effectivement utilisé ce service-là. Donc il y a comme ça des choses qu'on doit clarifier pour éviter... Hein, c'est que j'ai déjà entendu hein, qu'on paye l'argent, on ne voit rien sur le terrain. C'est déjà au départ, on ne tient pas compte de tous ces aspects. C'est pourquoi le juriste lui-même ne peut pas s'improviser, entrer au gouvernement, dire à tel ministre, je suis venu vous aider, dire à tel autre, moi je ne sais pas ça. Non, on doit inviter les experts, ceux qui maîtrisent hein, la matière, avant de créer telle ou telle taxe. Hein. Mais l'impôt, quand c'est déjà créé, on ne peut pas demander à l'État, je vais payer l'impôt pour que, par la suite, vous me donnez qu'on là, il n'y a pas de contrepartie.
Oui, mais pas de contrepartie, maître Trésor, mais l'idée, comme le professeur Inès parlait tout à l'heure de la redevabilité, c'est que le contribuable, quand on écoute les gens, par exemple, à Kinshasa, chaque fois qu'on dit aux gens de payer la vignette, les gens vous disent quoi, nous allons payer la vignette à la DGK. Ah non, mais écoutez, cet argent-là va sur les gens. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudrait qu'il y ait cette communication qui permette quand même aux gens de comprendre, l'impôt, vous n'allez pas nous demander une action directe, mais parce que vous avez payé une telle taxe, voilà ce que nous avons fait. On a toujours évoqué ici la taxe GoPass que les gens payent à l'aéroport, mais on voit aussi l'état dans lequel la plupart d'autres aéroports évoluent, à part c'est là où il y a eu les travaux à Kinshasa et à Lubumbashi. Est-ce qu'à un certain moment, la méfiance peut aussi venir du fait que, même dans cette confusion, les gens ils disent, mais nous payons quand même, mais qu'on dise clairement, oui, mais ça va ici, ça fait quoi? Et c'est de toute façon que les gens peuvent être encouragés à continuer à pouvoir payer Maître Trésor.
Effectivement, la méfiance devient de plus en plus grandissante parce que même à travers le monde, il y a aujourd'hui le concept de sociologie fiscale. Les juristes demeurent statiques dans les statu quo de dire que l'impôt doit être payé sans contrepartie. Mais le sociologue, lui, et l'économiste, demandent à ce qu'il y ait une contrepartie. C'est pourquoi il y a aujourd'hui ce qu'on appelle sociologie fiscale. Et vous entendez même ceux qui interviennent là ont tendance à demander que l'État puisse rendre compte de ce qu'il perçoit comme argent en termes d'impôts. Et donc c'est aussi important que le gouvernement puisse s'y atteler. Même s'il ne va pas donner des comptes, vous avez payé vignette, nous avons construit tel ou si pas dans ce sens-là, mais l'argent des vignettes nous a permis peut-être de construire les écoles. L'argent des vignettes, donc l'affectation dépend des besoins du gouvernement. Mais que sur le terrain, nous puissions seulement sentir l'impact de l'argent qu'on a payé en termes d'impôts. Les bons passes que vous avez cités là, ça c'est une pure escroquerie, permettez-moi de le dire. C'est une redevance. Mais on a créé une redevance sans pour autant mettre les aéroports dans des conditions qu'il faut. Hein. Nous utilisons, nous payons les deux passes à l'intérieur, à l'étranger, quand on veut voyager. Mais l'impact de l'ego passe. On ne le sent pas.
Rappelons quand même à Kinshasa, on a ajouté aussi, je crois, la taxe d'embarquement, la taxe provinciale des 5 dollars. Alors, merci beaucoup, Maître Trésor. Vous estimez qu'il faut y avoir des structures, des sensibilisations. Mais dès lors qu'une taxe a été décidée, que ce soit l'impôt, les contribuables, tous ceux qui sont obligés de pouvoir payer, ceux qui doivent prélever, ils doivent sensibiliser les uns et les autres, mais qu'il y ait quand même cette communication qui permette quand même aux gens de comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en place. On fait les recouvrements, oui, nous payons, mais aussi, voilà les résultats. C'est un peu l'ensemble de toutes ces mesures qui peuvent aider les gens à pouvoir aller de l'avant, mais chacun doit jouer son rôle, surtout en ce qui concerne les techniciens au niveau du gouvernement, qui doivent accompagner la vulgarisation et la sensibilisation de ces textes qui mettent en place les différentes redevances, les différentes dépositions, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Merci beaucoup, Maître Trésor. Sylvain, vous êtes à Bounia, à Missouri. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous dans cet échange.
Merci beaucoup.
Oui, Sylvain, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous. Je salue surtout les Congolais.
Voilà, merci. On vous écoute, Sylvain.
Merci. Bon, en fait, je me marie à l'idée de celui qui vient de parler avant moi.
Maître Trésor.
Mais lorsque vous avez posté le sujet, comme cela découle dans le fil d'un scientifique, il m'a paru utile que je puisse dire quelque chose à ce qui concerne le régime fiscal au Congo.
Mm-hmm.
Vous savez, la fiscalité, soit le finance public, constitue ce qu'on appelle la chef de la gestion de l'État, puisque c'est pratiquement semblable à la fonction financière dans les entreprises. Lorsque vous vous rendez compte de certains principes de la gestion des finances publiques, c'est que lorsqu'on instaure un impôt ou une taxe, ça est maintenant, n'est-ce pas, de l'effacement du droit. Et cela est vrai. Alors, cependant, ce que je trouve, c'est que j'ai comme l'impression que la majorité des gens, lorsque je vis les commentaires sur Facebook, c'est que la majorité essaie de se faire rapport au nombre, n'est-ce pas, de ces taxes qui existent en RDC. En fait, pour moi, le problème n'est pas d'ordre numérique, mais le problème est plus par rapport à l'utilité de ces actions. Et moi, je veux dire qu'il y a encore d'autres taxes qui, en RDC, ne sont pas perçues. Par exemple, si nous sommes chez nous ici, à la province de Mutili, il n'y a pas de taxe sur le parking, pas de taxe sur cela, la taxe sur la gestion des ordures ménagères ou des ordures générales, on n'a jamais perçu toutes ces taxes-là. Alors que ce sont des taxes qui pourraient rentrer dans les finances provinciales, ou même dans les entités territoriales décentralisées pour aider la gouvernance de l'entité. Alors, mais pourtant, c'est comme quelque chose que vous citez, c'est oui, que joue la perception de ces taxes. Je connais le monde. Et de la façon
Sylvain, pourriez-vous, Sylvain, déplacez-vous un tout petit peu tout en intervenant parce que la qualité de l'intervention se détériore. Vous vous déplacez un tout petit peu pendant que vous intervenez. On vous écoute.
Oui, là je me déplace quand même avant de m'écouter.
Oui, c'est assez mieux, on peut évoluer ainsi.
D'accord. Alors je disais que je prends l'exemple clair. Parce que le sommet perçoit sur la circulation routière, ça veut dire que vous avez de la route, paye des taxes, et que du côté du fonds à pas de caisse, doit remettre ça à l'office de route pour organiser la route. Donc, il n'est pas ici question de sensibiliser les chauffeurs.
Mm-hmm.
J'ai vu les gens se lever la question de sensibilisation. Actuellement, c'est la praticabilité de la chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas sensibiliser un chauffeur qui paye des taxes et qui trouve effectivement qu'il roule sur des routes qui sont normales. Donc la sensibilisation se fait par une gouvernance améliorée, une gouvernance éclairée au profit des bénéficiaires. Ça, c'est de un. De fait, il faut aussi se rendre compte qu'à l'RDC, nous avons un problème de la juxtaposition de certaines taxes. Vous avez deux services qui pratiquement ont trois différentes taxes, mais en réalité, c'était des taxes destinées à un seul service. Je vous donne un exemple, par exemple, d'une taxe perçue par le service de l'industrie, le service de petites et moyennes entreprises, et peut-être aussi, à un moment donné, vous trouvez les gérances de la FEC dans la même procession de taxes. Donc, ce sont des choses que nous vivons comme ça, où on ne sait pas comprendre exactement ce qui se passe. En quelque part, ça fait un peu de problème, puisque là, ça relève de la question de la définition des taxes et de l'affectation des ressources ici. Ça. C'est pour moi, c'est un problème. Et le troisième problème que j'ai soulevé à travers ce débat, la cette question de la charge publique de l'État. Est-ce qu'au Congo, nous savons effectivement définir la base fiscale congolaise? Puisque lorsqu'on parle de la base fiscale congolaise, il me paraît que on peut prendre cette première taxe, on s'imagine une somme, on dit que voilà, la RDC a une grande base fiscale. Mais le niveau de développement découle naturellement dans des économies bien gérées, dans des économies éclairées par une vision du changement de la société, par cette assiette ou soit cette base fiscale. Puisque je vais vous donner un pays comme les États-Unis. Quand vous regardez les États-Unis, vous essayez de taper sur Google, vous demandez quelle est la base fiscale, on vous cite des éléments. Et quand je vais surprendre les gens, ceux qui peuvent me prendre un défi pour aller sur Internet, la base fiscale des États-Unis par rapport au nombre est tout à fait petit par rapport à la RDC. Mais le développement entrepris par les États-Unis par rapport à nous, c'est quoi? Donc c'est une contradiction. Ici, la question, comme je le disais,
ça allez-y rapidement, oui.
Numérique, mais la question ici est plus qu'est-ce que nous faisons de cette taxe? Lorsque une loi établit une taxe, que ce soit un édit provincial établi une taxe auprès de la province, il faut qu'on se rende compte du rôle que doit jouer cette taxe. C'est là qu'on se retrouve au Congo. Je termine en disant ceci, c'est que si je me rallie à l'idée de la chaîne de Bernard Bamanoussa, que je salue d'ailleurs à Tassa, comme il a passé ses livres, c'est qu'effectivement, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi nous percevons de l'argent. Et est-ce que l'association trouve son intérêt sociologique pour un habitant de la ville dans la perception de cette taxe? Et est-ce que les gens sont réellement satisfaits? Parce que j'ai comme l'impression que ce dilemme dans la contradiction que les gens qui donnent, qui payent les taxes, sont à perpétuer une contradiction avec l'État. Et l'État aussi qui dit tout le monde est en train de fuir avec l'État. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a un sérieux problème.
Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Vous avez salué le gouverneur, l'ancien gouverneur Bamanoussa. Rappelons quand même, il a préfacé ses livres. Pour vous rejoindre, il évoque cette question de la réforme de notre administration fiscale. Vous avez évoqué les cas des juxtapositions des taxes. On a vu le conflit qui a opposé dernièrement les provinces et le gouvernement central autour des perceptions de certaines taxes, malgré qu'il y a eu les décrets de 2013. Le problème se pose parce qu'il y a encore des confusions. Vous avez parlé de ces services qui se retrouvent pour réclamer la même taxe. Alors, toutes ces questions doivent être résolues dans la réforme de notre administration fiscale. L'auteur du livre, Marcel Habillier, est revenu là-dessus. Mais quant à la sensibilisation, sinon vous estimez que les résultats peuvent faire assez que les gens soient sensibilisés, en partant du cas de Foner, par exemple, avec le Fonds national d'entretien routier. Vous estimez que ce qui est prélevé au niveau du péage sur le carburant terrestre et financer les travaux des routes, dès lors que un chauffeur roule sur une route qui démarre à Kisangani, qui a été réhabilitée, il ne va pas se poser de questions s'il faudrait s'arrêter au péage et pouvoir payer. Et tout ça doit se faire dans cette transparence. Et là, vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'on doit voir les résultats. Ce sont les résultats qui peuvent convaincre les autres personnes à pouvoir payer ces différentes redevances. Merci beaucoup. Sylvain Metsonville, vous êtes à Lubumbashi, vous gardez la ligne. Bernard est à Guéménan. Nous allons être avec vous tout à l'heure. Je rappelle que les débats autour de cette question de 50 000 taxes et redevances et droits à payer selon la nouvelle réglementation fiscale de la RDC. Comment arriver à sensibiliser la population pour qu'elle s'imprègne de toutes ces redevances? C'est la question au centre de notre échange. Vous pouvez nous joindre en direct au 081 890 6315.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale. Économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les 10 heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Tapissoir.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Mais Kevin Ikoka Bonyanga qui nous écrit sur le débat qui se déroule en ce moment sur la page Facebook dit ceci: je pense que c'est une situation normale qui est multiple des taxes parce que la taxe est facultative et est intimement liée à une prestation de service. Autant pour dire que chaque service prélève une taxe tenant compte des services rendus et il y a l'imposition lorsqu'on bénéficie d'un service, contrairement en France où la taxe est obligatoire. Ça ne veut pas dire que les prêts des 50 000 taxes vont tous peser sur un seul contribuable. Il n'y aura que des concernés. Il peut y avoir des campagnes de sensibilisation, mais le problème d'alphabétisation se posera toujours. Gustave Kilumbayi, pour le bon recouvrement de ces taxes, droits et redevances, le gouvernement peut passer par la réforme fiscale, c'est-à-dire doit synthétiser ces taxes pour qu'elles soient au moins 250 pour permettre aux deux parties de les maîtriser. Et aussi, l'État doit sensibiliser le peuple afin de le conscientiser à la culture fiscale que la plupart des opérateurs économiques manquent. Enfin, l'État congolais doit créer une bonne communication entre les agents des fiscs et les contribuables parce que l'amélioration du climat fiscal est tributaire de la qualité de la communication telle qu'elle se pratique entre ces deux parties. En outre, les contribuables veulent savoir le pourquoi de ces taxes sur tout ce que l'on compte faire des sommes d'argent récoltées. Gustave, au Kassai Central. Maître Sonville, vous êtes à Lumbashi dans le Haut-Katanga. Merci d'être avec nous dans cet échange. On vous écoute.
Oui, monsieur Thiraud, je suis juste l'opportunité pour vous saluer, aussi tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je vais aborder dans le même sens, mais je vais ajouter d'autres faits par rapport à mes prédécesseurs. Moi, je dis qu'il y a un problème de déficit communicationnel par rapport à la sensibilisation, à la vulgarisation. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Thiraud, je vous dirais qu'il y a une multiplicité de tâches. Pour ne pas parler des marchés, nous, lorsqu'on est dans un marché, là où on va marcher, musée à Lubumbashi, marché Lumbulu, marché Kenya, il y a une multiplicité de taxes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 48 heures, vous venez de parler de ceux-là qui peuvent vulgariser ces taxes-là. Moi, j'estime que les députés sont mieux placés, parce qu'ils ont des circonscriptions électorales, là où ils doivent se rendre pour essayer un peu d'expliquer. À ce concerne, comment les percevoir, comment les payer. Mais dernièrement, M. Thiraud, la facilitation ne peut se faire que par travers les médias. Il y a un député, M. Thiraud, qui est descendu au niveau de l'ICACI, pour ne pas le citer, Dani Banza. Il s'est entretenu avec les mamans du marché, il s'est entretenu avec différentes couches de la population, à ce concerne les taxes. Mais la vulgarisation qu'il a faite, là, il a interdit de passer sur les médias par le maire de la ville de l'ICACI, chose que nous ne parvenons pas à comprendre. Or, d'abord la RTNC, qui est notre chaîne nationale, ça vit de l'argent des contribuables congolais. Lorsque vous empêchez d'abord à ces contribuables de suivre l'information à travers leur argent qu'ils ont payé à travers les taxes, ça révolte les gens. C'est pour cela que certains citoyens congolais ne veulent pas payer ces taxes-là. Il s'agit de vulgarisation. Monsieur l'honorable Dani Banza a sensibilisé, mais
on ne pourra pas entrer dans ce débat, mettre son but tellement que nous ne savons pas comment, qu'est-ce qui s'est passé au Jupali Kassi, qu'est-ce que l'honorable Dani Banza a donné dans son message. Mais si nous revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous estimez que la vulgarisation est importante et peut aussi passer par le média national vit de contribution du contribuable congolais et il peut donner l'espace pour pouvoir vulgariser, expliquer, ça c'est très important. Mais quant à la question de la multiplicité des taxes, on a vu aussi avec la création des 26 provinces et les autres entités territoriales décentralisées, le problème va se poser, ça va devenir volumineux, il faut qu'on télévise parce que toutes ces entités ont besoin de pouvoir fonctionner. Mais alors comment on peut instaurer ce climat de confiance entre la population et les fisc pour que les gens plus facilement puissent s'acquitter de leur devoir fiscal mettre son ville?
Oui, pour établir la confiance, d'expliquer à la population que la taxe que vous payez, elle doit faire tel service. La taxe que vous payez, elle est canalisée pour tel service. Mon prédécesseur a parlé des amendes, des taxes perçues par la PCR. Même ni la nomenclature là n'a jamais été mise en fonction des chauffeurs. Mais quand les chauffeurs paient ces taxes-là, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils sont canalisés ces taxes. Je voudrais voir à la population, ces taxes ici que vous payez, servent à payer les uniformes de militaires, des policiers. Ces taxes vont servir à payer les fonctionnaires, ces taxes vont servir à payer les enseignants. Mais lorsque nous parlons maintenant que les enseignants sont très mal payés, le solde des militaires est insuffisant, et comment est-ce que vous allez, comment est-ce que la population peut avoir la confiance de payer ces taxes-là? Moi, je dirais que cette taxe doit être bien orientée pour essayer un peu de pousser les bras des congolais, des contribuables, afin de s'exécuter. Je crois que cela est mal géré. Ça, je ne pouvais pas comprendre. Ensuite, au-delà de ça, M. Thibault, je dirais par exemple, avec M. Bossman, qui existe entre différents services de perception. Il faudrait qu'il y ait quand même quelques remises à niveau, de séminaires de remises à niveau, par rapport à ces percepteurs-là. Et pour ne pas me limiter à cela, M. Thibault, il y a jadis, il y a cinq mois, le gouverneur qui parle à Kassoumba, n'est-ce pas, le ministre qui est venu, pour limiter le nombre de services qui doivent recevoir. C'est ça. Mais il y a des tâches même de certains services de sécurité, je ne sais pas, ces tâches-là sont orientées comment. Ça entre dans les forces de ces gens-là.
Et d'ailleurs, cette question de service au poste frontalier. Merci beaucoup, maître Sorbier. Oui, cette question d'ailleurs des taxes, quoi, des services au niveau des postes frontaliers, on l'a eu plusieurs débats ici, hein, l'État qui a déterminé les quatre services à la frontière. C'est pourquoi même il y a un moment où on a pu regrouper dans un guichet unique pour que, qu'on n'ait pas la, qu'on ne puisse pas payer de manière disparate, mais vous avez dit qu'il y a des services de sécurité, que ce soit que son balai, ça, on a vu aussi la confusion au poste frontalier des loupous, de qui doit percevoir quoi, mais c'est à ce niveau-là. Et vous estimez que tout doit être fait dans un esprit de sensibilisation, mais aussi que les gens se rendent compte effectivement qu'il y ait des résultats palpables quand on paye des taxes. Donc, ça, c'est revenu à la police. Et rappelons quand même que dans ces livres, tout a été ici montré clairement en ce qui concerne les amendes qui doivent revenir à la police des circulations routières. Et vous auriez souhaité que ces nomenclatures soient remises par exemple au chauffeur. Comme ça, la personne sait que si j'ai fait ça, je pourrais payer ça. Et où est-ce que je dois payer? Tout doit être canalisé. C'est de cette façon qu'on peut instaurer ce climat de confiance entre la population et l'administration fiscale. Merci beaucoup, maître Sonville. Bernard, vous êtes à Guémena. Bonjour.
Bonjour, c'est M. Bernard Bembo qui vous appelle à Guémena. Je suis de la nouvelle province de Sidoubani.
On vous écoute, Bernard.
Oui, je voudrais intervenir dans ce sens. Je voudrais rappeler l'opinion que les taxes et les dépôts, il y a une petite nuance. Quand on paie les dépôts, on ne demande pas la contrepartie. Mais quand on paie les taxes, nécessairement l'État est obligé de vous donner la contrepartie de ce que vous payez. Par la construction de routes, la construction des écoles et consorts. Mais apparemment, nous trouvons que l'État veut quoi faire quoi? Gagner l'esprit des peuples congolais. Il y a trop de taxes. Mais les choses ne s'améliorent pas. Prenons l'exemple des MP dans les secteurs de l'enseignement. Il y en a 140 000 enseignants MP, mais on est décapité pour 3 000. Ici, on paie les taxes, mais nos routes, quand nous quittons Guéménacourt, donc vraiment, la route est praticable, mais il y a une multitude de taxes qu'on ne peut pas quand même les citer tous ici. Prenons l'exemple de notre poste frontalier de Zongo. Quand vous arrivez, vous quittez Zongo avec vos marchandises, vous arrivez à vous quitter Bangui pour Zongo, vraiment, il y a multiples taxes. Et tout le monde vient vous ravir les histoires et vous êtes obligé après d'aller à chaque service, payer leurs droits et récupérer les marchandises. Mais est-ce que cela ne pouvait être pas possible qu'on puisse faire un guichet unique? Comme ça, il y a un service, il y a une personne qui vous dit que non, dans notre poste, on a autant de services, vous êtes obligé de payer autant, comme ça, et vous le répartir après, parce que cela énerve les gens. Vous voyez, vous quittez au centre trafic. Là-bas aussi, il y a pas mal de taxes, mais ils sont quand même organisés parce que là-bas, il y a une personne qui vous demande tout ça et après, ils distribuent l'argent. Mon apport est que le gouvernement congolais puisse se pencher à ce sujet, en fait, qu'il puisse formuler un guichet unique. Il y a une personne qui demande tous ses droits comme ça et même vont se départager après. Au lieu de tirer les gens, vous partez, ils vous rapisent les histoires. Là, ça énerve les gens et ça ne donne pas aussi une bonne confiance aux étrangers de venir investir au pays et à nous-mêmes les. Oui, pays et à nous-mêmes les nationaux de quoi de progresser avec nos affaires. Vraiment, c'était ma suggestion par rapport à la thématique du jour.
Merci beaucoup, Bernard. D'ailleurs, cette question de la taxe avec les contreparties est revenue plusieurs fois dans les débats. Il revient, que ce soit au gouvernement national, au gouvernement provincial, de pouvoir discuter avec les administrés pour montrer. On sait qu'il y a des édits provinciaux qui ont instauré telle ou telle taxe, mais il faudrait quand même qu'il y ait des résultats, des contreparties, qui puissent encourager la population à pouvoir payer. Mais cette question des guichets uniques, on a vu aujourd'hui avec la création des entreprises, mais vous auriez souhaité que ça soit aussi dans les postes frontaliers ou des différentes barrières que vous trouvez sur la route quand vous passez avec votre marchandise, s'il y a moyen d'avoir un guichet unique et on pourra orienter les contribuables pour lui dire voilà, tu payes une fois pour toutes et de quelle manière tout cela est réparti, plutôt qu'il y avoir autant de services, autant de personnes qui réclament, vous négociez avec celui-ci, vous passez à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième table et enfin, la personne ne souhaite passer avec sa marchandise de manière frauduleuse. Merci beaucoup Bernard, merci. C'était Bernard de Guéménan. Pour cela, vous êtes à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Vous regardez la ligne, nous avons reçu le message de Pablito Ouziel Maker, qui réside en France. Il dit les problèmes au Congo aujourd'hui, c'est qu'un pays comme le nôtre a beaucoup de difficultés pour pouvoir organiser son administration fiscale. Alors nous voulons avoir un Congo modèle, des multiples taxes sans raison. Il faut que cela puisse cesser. Mais tout doit être expliqué clairement afin que la population comprenne de quelle manière on a décidé une taxe et quelle est son importance et quelle est la contrepartie. Bravo Bélite Mungu de Kimina. La réforme fiscale serait la seule solution pour la maîtrise de ces 50 000 taxes et redevances qui constituent, bien sûr, pour la population qui risque d'être vue comme un véritable casse-tête pour la population. Alain Bolodua lui estime que le problème de la fiscalité dans notre pays n'est pas un fait isolé et son analyse exige la prise en compte de sa transversalité. Le dysfonctionnement du système politique peut aussi être mesuré dans une certaine mesure par le fonctionnement du système fiscal. À cet effet, le problème part de pourquoi collecter, sur quoi collecter, comment collecter, jusqu'à qui doit collecter. Toutes ces questions doivent être résolues d'une manière assez claire, expliquées ainsi à la population. Professeur, vous êtes à Calémie. Bonjour. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour.
On vous écoute, professeur.
Oui, je crois que toutes les théories sur la fiscalité ont déjà été dites par mes prédécesseurs. Mais toutefois, on va dire quelque chose à ce qui concerne les taxes. Je pense qu'en percevant les taxes, moi, j'ai toujours indexé l'État. Qu'est-ce que d'abord, l'État fait le rôle, pourquoi l'État existe? Est-ce que l'État fait d'abord son rôle? C'est ça d'abord la question que nous pouvons nous poser d'abord en abordant cette question, parce que nous abordons beaucoup de thématiques qui n'ont jamais eu de réponse. Je crois que nous continuerons toujours à aborder des thématiques et des thématiques. Nous sortirons de ces thématiques ici, on va aborder une autre thématique. Vous trouverez que pour les thématiques que nous abordons, il n'y a aucune thématique à qui on donne un résultat escompté. Pour les thématiques, vous trouverez que donc il n'y a rien qui ne va pas dans toutes ces thématiques que nous essayons. Oui.
Mais rappelons quand même, François, rappelons quand même
l'erreur de l'État vis-à-vis des thématiques. Oui. Est-ce que d'abord l'État sait que qu'est-ce que moi je dois faire pour ma population? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Moi, je pense que si nous regardons l'État, nous regardons notre État, nous allons dire que l'État est démissionnaire. Notre État est démissionnaire. Lorsque un État est démissionnaire, je pense qu'on se retrouve là dans le jungle. Je pense que on devrait cesser de parler que nous avons un État au Congo.
Alors, pour vous, vous estimez
nous
que
nous avons un jungle. Nous vivons voilà. Dans un jungle.
Rappelons quand même que ce matin, si vous avez besoin de quitter Kalemie pour aller à Lubumbashi, Ne me dites pas que vous allez partir à l'aéroport et puis vous casser tout en passant. Cela estime quand même qu'il y a un certain, vous reconnaissez qu'il y a une autorité qui est établie dans votre milieu. Mais revenons quand même à notre problématique dans Parole aux auditeurs. Vous, vous estimez qu'il y a une défaillance de l'État, mais rappelons quand même que dans Parole aux auditeurs, nous n'avons pas vocation de venir trouver des solutions aux problèmes qui se posent directement dans cette émission. C'est un échange citoyen. Nous lançons les débats. Vous avez votre point de vue. S'il arrive qu'un ministre vous donne des réponses, cela ne dit pas automatiquement que ces réponses sont des solutions directes trouvées dans Parole aux auditeurs. Mais nous pouvons toujours aborder autant de fois la même matière, nous pouvons la préparer à toutes les sources si possible pourvu que chacun de nous s'exprime autour de cette question. C'est pourquoi on peut revenir encore autant de fois pour parler de cette question des taxes. Et on sait qu'en écoutant les uns et les autres, il y a quand même des mesures qui peuvent être prises en tenant bien sûr compte de l'émission Parole aux auditeurs, mais qui est à savoir si les ministres et les autres responsables politiques peuvent annoncer pour dire voilà, nous sommes inspirés de l'émission Parole aux auditeurs pour prendre une telle décision. Ça fait plus du temps du ministre, de l'ancien ministre Macha Komamba, quand il était à l'enseignement supérieur et universitaire, plusieurs fois il s'est référé et il a dit même aux auditeurs, voilà, je vous ai écouté, c'est pourquoi on a pris une telle décision. Merci beaucoup, Faustin. Madame Joséphine, merci d'être avec nous à ce moment dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Joe Capilla. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole.
On vous écoute.
Je vais dire ceci. Tout le monde, hein, tous ces gens-là qui sont passés devant moi, avant moi, et qu'est-ce qu'ils essaient de dire? L'État au Congo, par rapport à sa population, la population n'a pas confiance au gouvernement. Donc la population n'a plus confiance à l'État. C'est à ce moment-là que vous voyez que la population ne paye plus les taxes. C'est parce que la population se dit, si je donne les taxes, les différentes taxes, je ne vois pas de résultats. Vous savez, hein, comme ici aux États-Unis, les taxes, beaucoup de taxes se récupèrent dans le salaire des gens. Donc, ce n'est pas des taxes déclaratives. Ce sont des taxes que l'État perçoit directement. Par exemple, dans le salaire, et puis il y a des taxes générales, c'est 7%. Quand vous voulez acheter quelque chose, vous payez 7% de la chose que vous voulez acheter. Mais maintenant, posez-nous la question. Mm-hmm. Combien de salariés qui y a au Congo? Il n'y a pas... Les salariés, je crois, si ce n'est pas 10%, peut-être 15%. Seulement. Si l'État veut récupérer les taxes sur les salaires, c'est rien. Bon, parlons maintenant des taxes déclaratives. Par exemple, les taxes que les hommes d'affaires, hein, qui doivent déclarer eux-mêmes. Un homme d'affaires prend l'argent à la banque. Hein, et prend l'argent à la banque. La banque lui offre une dette. Par exemple, 100 000 dollars. Et la banque déclare à l'État que j'ai donné à Madame Joséphine 100 000 dollars. L'État sait que sur les 100 000 dollars, la Madame Joséphine doit payer. Si Madame Joséphine vient à l'État pour dire que j'ai fait mon business, c'est 20 000 dollars, on va dire non, la banque, là où tu es allé prendre de l'argent, nous avons des preuves. Donc, il faut que l'État crée la confiance. Et la confiance, là, viendra d'où? La confiance viendra quand la population est représentée par le gens que la population a voté. Or, au Congo, le vote, il n'y a pas de vote. S'il y a de vote, on triche. S'il y a quelqu'un qu'on doit voter, on le nomme. Alors, la population s'est dit, on ne paye plus de taxes. Moi, je me rappelle mon père. Mon père avait un vélo. Quand j'étais enfant, il allait à la commune lui-même payer la taxe sur son vélo. Lui-même. C'est parce que il avait la confiance dans l'État. Il voyait les piétons et les cantonniers nettoyer les routes. Mm-hmm. Le Congo a déjà un échantillon. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous avez déjà vu un Congolais qui a été rapatrié parce qu'il n'a pas payé des taxes là où il est? Non. Le Congolais paye les taxes dans le pays là où je suis. Un Congolais peut payer les taxes s'il se voit, il a la confiance dans le gouvernement. Je veux dire ceci. Le gouvernement doit diviser le pouvoir. On sait qu'il y a le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire.
Oui.
Mais quand tu vas au Congo, tu ne vois pas la division là. Tu ne vois pas la division. Et moi, je vais terminer par ceci. Notre État doit être divisé en deux. Il y a la politique et il y a l'économie. Donc, on ne va pas diviser dans deux blocs. Parce que si on sait qu'on a... Hier, j'ai parlé de l'État qui a déjà eu l'indépendance. L'indépendance qu'on a eue en 1960, c'était l'indépendance politique. Tant que les Congolais ne savent, ne peuvent pas se dire qu'on a eu l'indépendance politique, on n'a jamais eu l'indépendance économique. Et qu'il faut qu'on travaille sur l'indépendance économique. Et il y aura toujours des problèmes.
Merci beaucoup, madame.
Je termine par ceci. L'indépendance économique. Vous voyez, on a pris le bureau de l'EGM. On est allé amener ça. On est allé amener ça en Tanzanie. S'il y avait l'indépendance économique, il y aurait des économistes qui allaient contacter l'État pour dire que il ne faut pas amener ça là-bas, c'est une carte.
Alors, vous avez parlé, madame, vous avez parlé du terminal qui a été inauguré dernièrement par le chef de l'État, mais ce n'est pas une transposition du bureau de la DGM qui a été déplacé pour être installé en Tanzanie pour avoir plus de pression autour des questions.
Merci
beaucoup, Madame. Merci beaucoup.
C'est une décision politique.
Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention. Mais il y a quelque chose d'important que vous avez dit, c'est qu'il faudrait aujourd'hui instaurer cette confiance entre l'État et la population. Et c'est en termes de redevabilité, parce que cela a été dit en début d'émission par professeur Ignace, quand il n'y a pas la redevabilité, les gens deviennent méfiants. Et ces livres en a évoqué plusieurs fois. Et cette méfiance font qu'aujourd'hui, les gens se disent, mais voilà, je ne suis pas obligé, je ne suis pas aujourd'hui obligé vraiment de pouvoir payer ce que je dois payer à l'État. Merci. Jérôme, vous êtes à Bounia, ingénieur bâti à Kisangani. Jérôme, on est avec vous. Mais en attendant, il y a Jean-Robert Kazadi, pasteur qui nous a écrit depuis la ville de Bukavu. J'aimerais vous montrer que les problèmes qui sont aujourd'hui dans l'administration de notre pays viennent de loin à partir de la mauvaise manière de succéder aux postes et des responsabilités sans en avoir des compétences. C'est une malédiction pour le peuple congolais d'avoir des gens qui s'y retrouvent là d'une manière occasionnelle. Et ça va être très difficile même dans le domaine de la fiscalité. Jérôme, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Ok, bonjour, JF.
On vous écoute, Jérôme.
En fait, concernant la thématique des jours, moi je pense qu'il faudrait recadrer le débat, d'abord voir est-ce que la confusion actuelle est due à la multiplicité des tâches avec la décentralisation, tout ça, ou soit c'est lié aux procédures de recouvrement des recettes dues au trésor public. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce qui concerne la multiplicité des taxes, parce qu'il y a, ce sont les mêmes actes qui, globalement, faisaient partie de recettes de trésors publics au profit du gouvernement central, qui, à partir, ont été rétrocédés pour les provinces. Alors, les entités, depuis bien avant, avaient leurs taxes percevées. À ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. Mais le problème, à mon avis, se pose au niveau des procédures dans le recouvrement de ces différentes recettes liées au trésor public. Parce que sur le plan pratique et technique, il est stipulé selon le texte. Par exemple, avec le service, les entités apprécient, doivent se borner à leurs attributions, des constatations et des liquidations, afin de permettre soit à la DGRAC ou soit au régime provincial de recouvrer les actes qui ont été constatés et liquidés par les services d'assiette. Mais il se pose souvent maintenant beaucoup de problèmes parce que là, quand les services vous remettent des notes de taxation, des notes de calcul, en principe, et demandent aux contribuables d'aller soit à la DGRAC ou encore au niveau de la régie provinciale afin de payer pour éviter les dédoublements de paiement de recettes pour le même acte. Maintenant, le problème se pose souvent dans notre pays. Nous n'avons pas assez de base. Alors, je demande...
Mais Jérôme, parce que là, il y a deux personnes, alors il ne reste que deux minutes pour terminer l'émission. Mais si vous avez évoqué une question de procédure de recouvrement, rappelons quand même que ces différentes procédures de recouvrement créent aussi la confusion. C'est qui donne des fois l'idée aux contribuables qu'ils font face à des multiples taxes. Mais dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a des auditeurs qui vont chacun avoir 45 secondes, comme l'ingénieur Baptiste qui est à Kisangani. Ingénieur, vous êtes avec nous, parce que là, on est bousculé par la dernière minute de l'émission. émission. Quel est votre point de vue autour de cet échange?
Salut les auditeurs. Mon point de vue, je voulais vous demander qu'il serait, il était souhaitable que vous fassiez même appel à un agent de l'État ou quelqu'un qui pouvait nous expliquer d'abord l'État c'est quoi. Parce que j'ai été vous confirmer que nous sommes plus nombreux qui ne comprennent pas vraiment l'État c'est quoi.
Mais là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander à Okapi Service qui pourra avoir une émission pédagogique, hein, c'est quoi une taxe, et comme ça on pourra facilement vous expliquer pour les uns et les autres. Mais ici quand même, les gens sont parvenus à dégager les pistes et les solutions pour permettre à ce que ce soit l'impôt, que ce soit la taxe, comment la population peut être sensibilisée pour pouvoir la payer. Mais la question des différenciations, je crois bien on pourra discuter avec Okapi Service, ils pourront bien vraiment donner cette mission pédagogique où les définitions pourront être données selon l'esprit du magazine. Et dommage qu'on ne fera pas aller plus loin. Valérie, ce n'est qu'une partie remise. On pourra bien se retrouver avec vous dans d'autres échanges parce que là, on est bousculé par les temps. Il y a beaucoup de gens qui continuent à discuter autour de cette question sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Vous avez été très nombreux à commenter les sujets autour des préalables qu'il faudrait aujourd'hui pour amener la population à pouvoir payer les taxes. Mais aussi, parmi les préalables, c'est la question aussi de la maîtrise des différentes taxes. C'est là que Okapi Service fait entrer en avant pour pouvoir vous expliquer les différents les différents types, bien sûr, de d'imposition. Comme ça, vous pourrez avoir la maîtrise. Mais du moins, on est resté dans cette sensibilisation. Merci à toute l'équipe pour la production de ce magazine. Jean de Mokondo était à la mise en onde. Jean-Yves Abongonda était au standard. Jean Lungembo à la réalisation et la coordination. Et puis, oui, la maison, je vous la présente sous la supervision de Martin Fédizango. On va être aux paroles aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Pour le moment, il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Merci. Au revoir.